Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Vous allez bien? Vous résistez à la grippe et à la gastro? Vous ne me répondez pas, c'est que vous êtes très malade alors. Allez, on va ouvrir notre Bible. On va ouvrir notre Bible et puis on va prendre un texte dans l'évangile de Marc. Voilà, on va faire cette lecture et puis ensuite j'apporterai un commentaire. Pour ceux qui étaient au rendez-vous la semaine dernière, nous avions abordé un sujet assez original sur les anges. Ouais. Alors, on va aller dans un autre sens, mais ça sera une suite à ce que nous avons déjà commencé depuis quelques semaines, une série qui porte sur la délivrance. Et nous allons ouvrir un autre volet, un troisième volet, donc sur la délivrance. Et nous allons lire donc premier texte dans Marc chapitre 4, verset 35. Et aller à la découverte de ce que la Bible nous enseigne. Alors on a dit que les anges étaient des envoyés, des messagers de Dieu, pour aider les hommes à hériter au salut, à hériter le salut. Donc il s'agit bien de quelque chose dont nous avons besoin d'être tout à fait conscients. Et si ces êtres célestes ont été envoyés pour nous délivrer, c'est parce qu'il y a un immense besoin dans notre humanité, dans notre monde. Alors, je répète, Marc, chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons sur l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un si grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent, même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Voilà, continuera la lecture d'ici quelques instants. Et pour vous dire tout de suite que ce n'est certainement pas fortuit l'enchaînement des deux récits. Jésus, les disciples, dans la tempête, sur la barque, sur le lac. Et puis, nous découvrons dans cette première lecture, eh bien là, la tempête qui s'apaise. Les éléments sont tourmentés, il y a un immense danger, une menace de mort pour Jésus et ses disciples, et puis d'un seul coup, la paix. Voilà, les choses arrivent. Vous remarquerez qu'il y a un mot qui va être le déclencheur de ce rétablissement dans la paix, dans le calme des éléments. Un mot, c'est un verbe, parce que c'est une action de Jésus. Jésus menaça. Il menace. En d'autres termes, il va, avec une autorité qui est la sienne divine, intimer l'ordre au vent et à la mer de se calmer. À la prochaine tempête, vous allez faire l'essai. Vous allez monter sur un rocher et puis vous verrez ce qui va se passer. Jésus menaça le vent et la mer. Et subitement, miraculeusement, surnaturellement, les éléments naturels vont retrouver un grand calme. C'est assez extraordinaire, hein ? Vous l'avouerez. La question qui vient à notre esprit serait la suivante, mais qui est derrière ce fameux tumulte météorologique que rien ne pouvait présager, puisque quand ils sont montés la veille au soir dans la barque, tout était très calme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et nous allons voir en arrière-plan quelles pourraient être les conditions de ce désordre destructeur. Et qui veut perdre Jésus et ses disciples qui sont là dans cette situation tourmentée? Qui veut perdre? Qui veut amener la mort de Jésus et de ses compagnons pour qu'ils passent par le fond des eaux? Un mot est à retenir, une expression est à retenir, Jésus menaça. Alors c'est assez quand même étrange, parce que est-ce que l'on peut menacer une chose inanimée? Enfin là c'était particulièrement animé, mais vous comprenez ce que je veux dire. Une chose, est-ce que l'on peut menacer une chose? On peut menacer un être vivant, une personne, quelqu'un qui a en elle la vie tout simplement, quelqu'un qui est capable de réagir et de comprendre l'ordre. Mais est-ce que la mer, est-ce que le vent, que nous connaissons bien, ont la capacité finalement de s'incliner? Ce sont des éléments de la nature. La mort était le but implacable, était véritablement l'issue de cette tempête qui s'est déclenchée cette nuit-là sur Jésus et ses disciples. Et on s'aperçoit que, comme dans le descriptif qui nous est fait dans les quatre évangiles, que c'était quelque chose d'humainement incontrôlable. Pas possible, comme je vous ai dit. Vous pouvez toujours essayer, hein, mais vous pouvez menacer autant que vous voulez la mer et les vents là sur la côte, vous verrez qu'il n'y a pas grand-chose, ça nous dépasse. Alors, nous allons découvrir qu'il y a quelque chose derrière et qui va être le sujet complémentaire de ce que nous avions déjà commencé il y a quelques semaines. Eh bien là, derrière cette nature, il y a un être ou des êtres pensants et intelligents qui sont capables de manipuler, capables, à notre grand étonnement, eh bien, de faire des choses qui nous enseignent ce matin. La Bible nous parle, c'est l'apôtre Paul qui écrit que derrière les éléments de notre monde, notre environnement, ce que nous connaissons bien, puisque nous sommes des hommes sur la terre, derrière cette nature qui quelquefois s'emballe, soit par convulsion, par éruption, par dévastation, enfin tout ce que l'on peut imaginer, que l'on voit très souvent, et qui nous sont rapportés par les médias et qui déclenchent des drames ici ou là, eh bien la Bible nous parle d'un prince de la puissance de l'air, le Dieu de ce siècle. Elle nous dit également que, eh bien, il existe toute une hiérarchie, contrairement à ce que nous avons, le contraire de ce que nous avons enseigné sur le monde angélique et céleste la semaine dernière, qu'il y a un autre monde qui existe en opposition à Dieu, en opposition à la création de Dieu, en opposition à la créature de Dieu. Et son nom est dévoilé par la bouche même de Jésus, Satan, l'adversaire, le destructeur, le menteur, le meurtrier. Et croyez bien que tout cela, eh bien, il travaille dans l'anonymat pour ne laisser aucune trace derrière lui, qui fait que les hommes restent dans l'expectative en disant « Mais qu'est-ce qui se passe ? Nous ne comprenons pas. Un tsunami ici, un volcan qui va rentrer en éruption, des avalanches, enfin, tellement de choses. » Un meurtrier qui ne laisse pas de traces. C'est quand même curieux. Lisez donc, si vous voulez avoir un complément d'information, le premier et le deuxième chapitre du livre de Job. Et là, c'est intéressant de prendre toute la mesure que la Bible nous dit des vérités que trop souvent les hommes veulent ignorer. Mais ça ne doit pas être ignoré par les chrétiens, parce que soit on prend la Bible avec tout ce qu'elle nous dit et nous la recevons dans sa vérité, ou alors à ce moment-là nous prenons, nous laissons, nous faisons ce que nous voulons, mais c'est pas ce qu'il y a au fond de notre cœur. Donc, nous nous apercevons que, sous un autre plan, la mort est tout aussi menaçante à travers d'un autre agissement qui vient maintenant de l'adversaire. Il est peut-être un peu plus dévoilé, mais en ce qui concerne, il est plus manifesté, nous pourrions dire, mais en ce qui concerne l'agissement mystérieux qui est derrière, eh bien ça reste encore quelque part vraiment difficile. Alors c'est vrai que ça fait appel, ça bouleverse l'homme rationnel, parce que nous avons l'habitude, nous, de penser, c'est bien, et Dieu ne nous demande pas d'abdiquer à notre intelligence et à notre pensée. Mais quelquefois, il ne faut pas rester à nos horizons horizontaux, enfin, à nos visions horizontales, mais quelquefois de regarder un petit peu plus à la verticale. Et nous voyons à ce moment-là qu'il y a donc, eh bien, une autre dimension que la nôtre, visible, palpable, mesurable. À travers la tentation, à travers l'assiègement, à travers la possession. Alors, ce sont des mots difficiles. Et pourtant, ne serait-ce que déjà l'Ancien Testament ne se gêne pas de prononcer ces mots, de les consigner dans ces pages. Ouais, c'est écrit. Maintenant, il faut rester, il faut garder raison. Parce que tout n'est pas possession, tout n'est pas habitation, tout n'est pas démonisation, si vous voulez aller par là. Il y a une grande part immense qui appartient à l'homme et à la nature. L'Évangile y fait référence fréquemment. Et d'autre part, encore aujourd'hui, certains cas étranges, et le cas que j'ai lu dans la deuxième partie est un cas extrême. Je dis bien, souligné, extrême, étiqueté, répertorié, médicalement, scientifiquement, physiquement, physiologiquement, mentalement, pose des questions. On s'interroge. Pourquoi? Quelle cause? Mais surtout, quelle solution apporter? Quelle réponse à ces choses qui sont autour de nous? Auxquels nous pouvons être confrontés, et on se dit, mais il y a quand même quelque chose. Aujourd'hui, on mettra des noms. On parlera non pas de possession, mais de schizophrénie, de névrose, de psychopathe. On parlera de démence, on parlera de toutes sortes de choses. Il y a des établissements pour cela, pour contenir un peu dans la société ces débordements, et ils sont effrayants, parce que quand on voit ce que certains individus sont capables de faire, revenus à leur bon sens, se dit « mais je me souviens de rien ». Donc il y a quand même quelque chose. Alors, quelle solution, quelle réponse? Nous sommes confrontés à cela. Je vais reprendre le texte du chapitre 5 d'ici quelques instants. C'est l'homme de Gadara qui nous place devant, eh bien, cette réflexion ce matin. Le théâtre du récit, c'est la Décapole, c'est-à-dire que c'est une région en dehors de la juridiction des Juifs, c'est en Palestine, mais Jésus, en y débarquant, nous dit le verset premier, y trouve un territoire à la fois étranger, mais étrange, et occupé dans tous les sens du terme. Un pays habité par des non-juifs, des hommes comme les autres, hein, naturellement, mais ils n'avaient pas la connaissance que les juifs avaient par rapport à cette révélation qui avait été donnée au peuple élu, au peuple d'Israël, par rapport aux dangers, par rapport aux réalités spirituelles. Parce que cette population, nous le verrons peut-être ultérieurement, il y a beaucoup de choses à dire sur le texte, hein, était adonné à des arts magiques, à de l'occultisme, au spiritisme, au satanisme, à toutes sortes de genres, toutes sortes de choses dans ce sillon, dans ce cru-là. Et vous savez que quand Dieu a fait rentrer le peuple d'Israël, lui a donné l'héritage du pays de Canaan, Dieu a bien dit par Moïse, « Attention, vous ne toucherez pas à ces choses, vous n'irez pas vers les astrologues, vous n'irez pas vers ceux qui évoquent les esprits, vous ne vous préoccuperez pas de connaître votre avenir et ceci et cela, vous ne ferez pas passer au crime, s'il en est, vos enfants par le feu pour avoir la bénédiction de Dieu, enfin au pluriel et toutes sortes de choses. Parce que ça, c'est le péché. Mais pas le péché tout simple, sans qu'il y ait une graduation, mais le péché de l'esprit. Attention, étiquette rouge, c'est très dangereux. Alors ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Figurez-vous qu'il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Alors voilà un individu qui a perdu le contrôle de lui-même, qui a déraillé, détraqué. Qu'est-ce que l'on pourrait dire encore? Certainement à ne pas rencontrer en pleine nuit, hein, ou les jours de pleine lune. Hein. Waouh, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Vraiment, assurément, une rencontre avec un étrange personnage. Le possédé. Le démoniaque. Oh, il avait certainement une réputation dans la contrée où il résidait, hein. On devait lui affubler tous les noms, toutes sortes de choses. Il devait faire la terreur, probablement de tous ceux qui étaient autour de lui. C'est une terminologie biblique, possédé, démonisé. Il vint au-devant de Jésus, le verset 6 nous dit, qu'ayant vu Jésus de loin, il accourut. Et il se prosterna devant Jésus, étrange, hein, être porteur d'une telle pathologie psychique, mentale, et venir vers Jésus. C'est curieux. Comme s'il était mu par une aspiration impérieuse, supérieure, vers une délivrance possible. Or, le paradoxe qui est souligné, c'est qu'il est porté vers Jésus, et d'un autre côté, il redoute toute intervention et supplie Jésus de ne rien faire pour lui. On le verra, on le lira d'ici quelques instants. Curieux ça. Quelqu'un qui est dans un état où il n'est plus lui-même, ce n'est plus l'homme. C'est quelqu'un qui a un dédoublement de personnalité. D'un côté, il aspire, et puis d'un autre côté, ne me touche pas, ne fais rien pour moi. C'est terrible. Un homme malheureux, hein. Un homme dévasté, qui n'a même plus la conscience, ou si peu, de son état, on le voit, hein, à traîner dans les cimetières, à se nourrir de morbidité, à être nu, comme le dit un autre texte. Waouh! Dans ce refus qu'il manifestera à Jésus, pourtant il s'approche de lui, il dira un peu plus loin, on le lira, « Au nom de Dieu, je te conjure, ne me tourmente pas !» Vous avez remarqué le terme qui est employé ?« Ne me délivre pas !» Mais non, mais c'est autre chose. « Ne me tourmente pas !» Est-ce qu'il s'agit de l'homme qui parle, ou de celui qui habite dans l'homme et qui le fait dire, qui lui fait dire ses paroles ? C'est encore une autre question. C'est un comportement qui pourrait peut-être être assimilé ou analysé avec des comportements qu'il peut y avoir dans la société d'aujourd'hui. Vous savez, il y a quand même des gens qui sont pas bien. Hein. Et on est dans une société qui rend les gens de plus en plus malades, détraqués, désaxés, désorientés. Alors bon, dans la grande majorité, bon, voilà, hein, ça va. Mais on voit des drôles de choses quand même. Alors on appellera ça des excentriques, des originaux, avec naturellement tout un mode de vie qui va avec. Et on se dit, mais qu'est-ce qui leur est arrivé à ces gens-là? Qu'est-ce qui s'est passé? À quoi aspirent-ils? Qu'est-ce qu'ils ont touché pour se trouver dans une... Vers qui ils sont allés pour en arriver à parfois porter sur eux-mêmes, sur leur peau, sur leur visage, dans l'expression de certaines manifestations à la fois de leurs paroles ou de ce qu'ils sont capables de produire, parce que quelquefois ce sont aussi, pas seulement, mais des artistes. On se dit, mais quelle inspiration tout ça? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors l'homme moderne, qui lui va avoir un peu la même attitude, qui va pressentir dans l'évangile l'espoir de quelque chose d'autre, d'un bonheur, d'une joie, d'une paix, mais qui inconsciemment redoute de s'y engager parce qu'il craint ses exigences de devoir changer de vie, de devoir abandonner certaines choses et de changer de vie et appréhende la rencontre avec Dieu. Et pourtant, il y a bien des gens qui sont dans cet état, qui ont des besoins spirituels. J'ai eu l'occasion de me rendre très souvent dans des hôpitaux psychiatriques et de voir vraiment des pauvres gens. De rencontrer aussi dans d'autres circonstances des gens qui sont profondément malheureux parce qu'ils ne s'expliquent pas ce qui leur arrive. Ils sont complètement désorientés. Ils se disent, mais j'ai un profond malaise en moi. Je n'arrive pas à y mettre un nom dessus. On a vu des gens qui ont été réduits à des zombies parce que la seule paix qu'ils pouvaient trouver, c'était la camisole médicamenteuse. Je dors maintenant, je ne pense à rien, je dors le jour, je dors la nuit. Mais quand ils sont éveillés, c'est terrible. Ce sont des gens qui sont emprisonnés, captifs, opprimés, tourmentés, bouleversés en permanence dans leur corps, dans leur pensée, dans leur conscience, dans leur esprit. C'est terrible. On voit, et c'est visible, tellement de gens qui, quelquefois, sont dans l'incapacité parce qu'ils ont perdu des membres. Enfin, je veux dire, un bras, une jambe, ou ceci, ou des fonctions par leur sens. Mais ceux-là, on n'en parle pas beaucoup. On les cache. C'est terrible, ça, cette histoire qui nous est racontée. Hein. Et j'ai souvent rencontré des gens qui aussi aspiraient, cherchaient à sortir de leur prison. Une prison où il n'y a pas de porte, où il n'y a pas de barreau, il n'y a même pas de mur. Et ils sont au milieu de nous, mais elle est à l'intérieur. Terrible. Et de pouvoir dire, eh bien, priez pour moi, quand ils avaient un peu de lucidité, priez pour moi pour que je sois délivré. Passer par des crises, par des tourments, par les affres de toutes sortes de douleurs et de souffrances. Parce qu'ils aspiraient. Et puis d'un autre côté, avec des manifestations, de dire, je veux pas que vous me touchiez. Je ne veux pas que vous priez pour moi. C'est curieux, hein. C'est exactement ce que nous voyons là chez notre individu. Vous savez que il y en a un qui a bien expliqué les choses. Il s'appelle Paul, l'apôtre Paul. Et il lève le voile sur ce que j'appellerais le suggesteur de la conscience humaine. Celui qui, vous savez, qui vient de nuit. Après que le bon grain ait été semé, vous savez, et qui vient jeter de l'ivraie. Est-ce que Dieu aurait réellement dit? Est-ce que Dieu existe? Tu sais, Dieu te hait. Dieu ne t'aime pas. Ta place, c'est pas au ciel. C'est en enfer. Et tu sais, tu en connais déjà un petit rayon de l'enfer, hein. T'as vu comment tu vis? Tu ne te comportes même plus comme un homme, quelquefois. Quand ça te prend, tu te comportes comme une bête, comme un animal. Tu cries, tu hurles, tu gesticules, tu danses, tu sautes au plafond, tu fais n'importe quoi. Oh, je vais te donner toutes les substances nécessaires si tu veux aller plus loin. Ouais, Paul jette le voile. Et il nous en parle. Il nous en parle dans cette fameuse épître aux Corinthiens. 2 Corinthiens, au chapitre 4... Et au verset 3 à 4, où il est dit ceci, Paul parle de son évangile, qui n'est pas seulement le sien, mais qui est l'évangile de Dieu annoncé à tous les hommes. Et il dira, si notre évangile est encore voilé, Il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux qui ont des yeux mais qui ne voient pas, pour ceux qui, quelque part, eh bien, ont besoin d'avoir une autre dimension visuelle, celle du cœur. Alors ils périssent. Pour les incrédules, ceux qui disent « moi je crois pas en Dieu, c'est pas possible ». On descend d'ailleurs, mais certainement on n'allait pas me faire croire que Dieu existe, c'est pas possible. Alors les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, vous remarquez, je viens de prononcer un mot, c'est marqué avec un petit D. Dieu avec un petit D. Et il l'appellera le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé, parce qu'il est ténèbre lui, hein. Eh bien il a aveuglé l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est à l'image de Dieu. Un voile a été jeté, et il y a des milliers, des millions, des milliards d'hommes dont le voile subsiste sur leur cœur, sur leurs yeux, dans leur conscience, dans leur intelligence, le voile a été jeté. Le même apôtre Paul dira dans un autre texte, quand les hommes se convertissent, le voile est ôté. Donc il y a bien quand même une réalité, ou alors à ce moment-là, la Bible nous raconte n'importe quoi. Dans une parabole, Jésus lui-même donne la vraie raison de tout cela. Et c'est intéressant de comparer, de faire finalement, eh bien, un comparatif dans Luc chapitre 8, verset 12. Il nous est raconté cela dans une parabole. Verset 11, par exemple. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu qui ouvre les yeux, qui crée la foi et qui nous affranchit, qui nous libère. D'accord? Et il dira, mais ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, et ils ont entendu. Puis, le diable vient. Ah oui, vous savez, celui dont on a parlé. Et il enlève la parole de leur cœur de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Voilà ce que cet homme venait quand il a vu Jésus arriver de loin. Il dit, j'y vais, je vais avoir la délivrance. Et puis d'un autre côté, il est retiré en arrière en disant, surtout ne me tourmente pas, ne me touche pas, ne fais rien pour moi, ne prie pas pour moi. De peur qu'il ne croit et qu'il ne soit sauvé. Parce que le grand défi de Dieu, c'est de sauver les hommes. C'est de les amener à la vérité, de les amener à la lumière, de les amener au salut, au pardon, et de passer l'éternité avec Dieu dans le ciel de gloire. Et le but contraire de l'ennemi, c'est finalement, eh bien, de faire toute en sorte de que tout homme puisse le plus possible éviter de croiser ou d'être en présence du témoignage de l'évangile d'une manière ou d'une autre, à travers un chrétien, à travers la Bible, à travers un témoignage, à travers tout ce que vous voulez. Le Seigneur dit, venez à moi. Ne crains pas, venez à moi. Et je vous libérerai, je vous bénirai. Et l'autre dit, haha, je vais bien employer ta vie, tu vas voir, je vais te tracer des chemins. Oh, tu vas passer par là, tu vas passer par ici. Ne te pose pas de questions si tu penses que c'est un labyrinthe. C'est voulu, c'est fait exprès. Pour qu'une vérité d'aujourd'hui devienne une fausseté de demain. Et de faire un mélange religion, théologie, enfin toutes sortes de choses, tout ce qui pourrait te monter dans le cœur, te monter à ton cœur, je vais faire un mélange de telle manière que tu n'y comprendras plus rien. Afin qu'il ne croie et qu'il ne soit sauvé. Vous vous rendez compte? C'est terrible ça. Ce qui est paradoxal dans notre monde, c'est que l'homme qui chérit tant le mot liberté, on en parle de la liberté, hein, les peuples qui se libèrent et qui se retrouvent quelquefois dans des situations pires qu'avant, et dans toutes sortes de choses, le mot liberté, eh bien cet homme-là n'est pas aussi libre qu'il ne le croit. Parce que quelquefois, il est tellement ligoté, tellement lié, tellement emprisonné, qu'il ne s'aperçoit même plus de sa condition. Et quand il arrive à couper un lien, il y en a encore 10 qui arrivent derrière. Vous savez, la conversion, la véritable conversion, la conversion authentique par le Saint-Esprit, l'action de Dieu. Frères et sœurs, c'est pas facile, hein? Vous en avez quelques souvenirs? C'est quelque chose, hein? Mais c'est quand même Dieu qui nous libère, et c'est lui qui nous libérera souverainement, hein? Autrement, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est pas nous qui nous sommes libérés, hein? C'est Seigneur. Parce que, comme à l'image de Lazare, le prince de la mort qui avait fait mourir Lazare, il s'était arrangé pour que Lazare soit bien dans des bandelettes, vous comprenez? Bien ficelé! Voilà! Alors Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. C'est Jésus qui libère de toutes ces choses, d'une manière ou d'une autre. Le cas considéré est beaucoup plus grave, mais il a l'avantage de trahir celui qui est derrière, celui qui en est l'oppresseur, l'instigateur. L'histoire de Gadara, c'est quand même une sacrée histoire. Parce que pour en arriver à être possédé comme il l'était, il tenait quelque chose, hein. D'ailleurs, on va le lire. Quand Jésus lui dira « Quel est ton nom ?», il dira « Légion ». Vous savez, il y a des gens qui tiennent quelque chose, hein. Et moi, quelquefois, quand je vois, et vous le voyez aussi, hein, il y a des gens qui sont, comment dire, je les respecte. On doit respecter la personne humaine. Mais de voir comment ils ont été déformés, dénaturés, combien ils ont été complètement dépossédés, ça se lit sur leur visage, ça se s'entend à travers ce qu'ils peuvent dire et véhiculer. Ça se voit sur leur corps à travers toutes sortes d'effigies, toutes sortes de marques. Je suis pas en train de juger, mais je constate. Vous savez que dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé du sceau de l'agneau et de la marque de la bête, hein. Une identification à quelque chose. C'est pas pour rien. C'est certainement pas pour rien. Alors nous allons voir chez cet homme de Gadara des manifestations très 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 inquiétantes. Et je me permets de le relire dans cette étude. Il est dit ceci. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au devant de lui, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Bon, constatation naturellement, eh bien de ce fait. Ensuite, il nous est dit que cet homme avait sa maison dans les sépulcres, le cimetière. Personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Il était super puissant. Souvent, il a vu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il les avait rompus. Vous vous rendez compte? Et on avait dû lui en mettre quelques-uns. Il avait brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, c'est-à-dire que c'était sa vie. C'était pas occasionnel par quelquefois des élans de dépression ou de nostalgie ou d'exaltation. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes. Et il criait et se meurtrissant avec des pierres. Je constate une chose. C'est qu'on est en train de développer tout un, comment dire, une catégorie de films à faire peur aux gens en ce moment. Ouais, les fantômes. Vous y croyez aux fantômes? Une ombre. Tu dors, Alain? Alors, on est en train de développer ça, et c'est cette nourriture que nous sommes en train de donner à nos enfants et à nos adolescents, et dont certains adultes ne pourraient plus se passer parce que c'est devenu une addiction. Il y a même des festivals de l'horreur. Je vous citerai pas les villes parce que ça existe en France. Et puis toutes sortes de choses, et c'est de la surenchère. Je ne sais pas quelle impression ça fait à un chrétien, mais waouh, c'est terrible, hein. Et ça va de plus en plus loin dans une vision qui est tellement imprégnée de mort. Je voudrais vous dire que la vie c'est beau, la mort c'est pas beau. C'est la dégradation, c'est la décomposition, c'est affreux. Quand je vois des effigies ou des tatouages de têtes de mort, je me dis, donc, on a le temps, hein. C'est terrible, mais il y a des gens qui se nourrissent de ça. C'est une nourriture, et ils ne s'en sont pas conscients. Ils sont porteurs d'un message silencieux. Et ils se disent, c'est beau. Écoutez, je voudrais quand même remettre les choses en place. Enfin, pour moi, le beau, c'est beau, et le laid, c'est vraiment vilain. Ben non, pour dire le contraire, remarquez, vous allez me dire, mais vous allez me dire que de toute façon, on est dans une société aujourd'hui que ce qui est bien, c'est mal, et ce qui est mal, c'est bien. Ce qui est juste est injuste, et ce qui est injuste, c'est juste. Waouh! Attendez, on n'a pas fini d'en voir, hein. Ça vient. Et ça vient de mieux en mieux, hein. Son lieu de prédilection, il vivait dans les sépulcres. On peut habiter occasionnellement à côté d'un cimetière. Mais habiter dans un cimetière, pooh, c'est vrai que c'est un jardin, vous êtes tranquille, il y a du repos. Hein. Sauf les jours de la Toussaint. Là, vous voyez du monde. Mais autrement, quand même, il avait, le pauvre homme, une attirance vers la mort. Il avait un goût morbide qui avait remplacé le vrai goût de la vie, et pour lui, il était imprégné de ses pensées, imprégné dans sa manière d'être. Lui, pour lui, c'était les tombes. C'était pas la maison normale des hommes, la maison d'argile des hommes, voilà. Et à y regarder de près, on découvre que le diable a estampillé notre culture, notre littérature, notre cinématographie, la peinture, nos arts d'une manière ou d'une autre. Il y a des musiques, enfin j'ai passé l'âge, maintenant je suis un vieillard, mais quand même, il y a des musiques, oh là là, attention, hein, c'est crash, hein. Je connais encore les mots, hein. Attention. Et nous nous apercevons que tout ça a été imprégné et que les gens respirent comme si c'était vraiment un parfum d'agréable odeur. Ils ne s'en aperçoivent plus. C'est bien, c'est formidable, etc., etc. Non, la vraie vie. La vraie vie, elle est auprès de Dieu, elle est saine, elle est sainte, elle est juste, elle est pure, elle est belle. Parce que si c'est ce paradis-là qu'on me propose de l'autre côté, moi j'y vais pas, hein. Il est noir, il est obscur. À travers, et il véhicule des messages subliminaux, c'est pas dit. Et ça rentre dans la conscience, dans le subconscient, dans l'inconscient des hommes, et ils finissent par être convaincus. Priez pour vos enfants, mes frères et sœurs. Priez pour nos enfants. Priez pour nos petits-enfants aussi. Parce que le monde va pas forcément aller dans le bon sens. Ça va être quelque chose. Et je ne suis pas un prophète de malheur, hein, pour ceux qui me connaissent. Moi, j'annonce le bonheur qui est en Jésus-Christ. Alors, tout cela s'est marqué et s'est enclin vers ce qui est noir. Il y a de moins en moins de couleurs, vous avez remarqué, dans les tableaux. Les séries noires. L'humour noir, quand ça ne devient pas de l'humeur noire, qui se caractérise par toutes sortes d'excentricités, de comportements, d'habillements. Je suis bien. C'est ma femme qui me dit tu prennes un costume, une cravate. Ça vous plaît? L'habillement. Bon, vous pouvez me faire des compliments, hein, il n'y a pas de problème. Toutes sortes d'idées farfelues, vous savez, qui passent, et les gens les écoutent. Il y a quelques années où les gens peut-être avaient un peu plus de bon sens en disant, mais c'est pas vrai, on peut accepter des choses comme ça. Aujourd'hui, ça passe sous la forme de l'humour. Vous avez vu combien il y a d'humoristes qui racontent n'importe quoi? Avec de la vulgarité, avec de la grossièreté. Je ne suis pas en train de condamner, mais je constate, et quelquefois, je comprends qu'il y a des gens qui commencent à avoir des boutons. Parce qu'il n'y a plus de limites aujourd'hui. On parlera d'originalité, de marginalité, de toutes sortes de choses. Vous savez que notre homme de Gadara, il serait bien dans notre temps, hein. Il serait certainement un champion, hein. Certainement. Mais c'est un malheureux. Faut pas vous y tromper. Il peut vous dire, mais moi j'aime les cimetières. J'aime crier. J'aime gesticuler. J'aime sauter de ceci et cela et... Non, non, mais c'est un malheureux. Parce qu'il appartient à un royaume dont le prince s'appelle le prince de la mort. Parce qu'il ne connaît pas encore celui qui vient auprès de lui le Fils de Dieu, Jésus qui s'approche, parce que lui, il est le prince de la vie. Et ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer. Il rompait les chaînes et il brisait les fers. Il était, figurez-vous, animé d'une force surnaturelle dont on se demande d'où il allait la chercher. Et l'aveu est fait qu'aucun moyen humain n'avait suffi à le maîtriser. Je l'ai dit, je le répète, je me suis trouvé il y a quelques années de cela à prier pour une jeune fille qui était véritablement aux prises avec une crise. Comment dirais-je ? Alors on pourrait dire pudiquement une crise nerveuse, aux prises avec des angoisses. Mais c'était plus que cela. Dans une scène, en transe. Et je me souviens qu'il y avait un homme, moi j'étais un jeune homme à l'époque, mais il y avait un homme qui était fort. Et cette jeune fille que nous connaissions bien était en plein délire. Alors y avait-il des substances? Je ne sais pas. Et quand on a voulu tout simplement la calmer, quand on a voulu l'apaiser, je peux vous dire que elle avait 20 et quelques années à l'époque, on s'est retrouvé complètement plaqué au mur. C'est terrible ça, hein? Alors que, mesdemoiselles, hein, j'espère que vous n'avez pas cette force-là, parce que là, vous n'allez pas vous marier, hein, ça c'est sûr. Je dis ça, c'est pour blaguer, mais c'est pour dire que là, il y a un dédoublement. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est quelque chose. Et c'est le cas qui nous est présenté. C'est terrible, hein. C'est terrible, cette situation. Alors, quand l'humanité aura enfin compris que ce n'est pas les mains et les pieds qu'il faut enchaîner, comme lui, pour calmer les démences du monde, mais que c'est le cœur qu'il faut d'abord dompter et affranchir par le message de l'Évangile. Le moteur, il est là. Vous avez le cœur d'un homme, vous avez toute sa vie. « Mon fils, ma fille, nous dit le livre des Proverbes, donne-moi ton cœur. Car c'est de ton cœur que viennent les sources de la vie avec quoi je me nourris. Quelle est ma nourriture ? Pas physique, vous avez des livres de cuisine pour ça, mais ma nourriture sentimentale, ma nourriture affective, ma nourriture morale, ma nourriture psychologique, ma nourriture spirituelle. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Eh bien, quand on sera arrivé là, on aura fait un grand progrès. Or, on s'aperçoit que la société, elle fait exactement tout le contraire en ce moment. Personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant. Un homme agité de corps, agité d'âme et agité d'esprit. Le physique, le psychique, était totalement, complètement ébranlé, et je ne vous parle pas du spirituel, parce que là, il allait trouver ses sources ailleurs, où on l'avait rempli d'ailleurs. Le monde de l'esprit. Conséquence, cet homme n'avait plus de repos, jour et nuit. Il avait perdu le sommeil. Alors, si vous dormez pas une nuit, hein, n'allez pas dire que c'est diabolisé. Hein. Parce que ça m'arrive, moi aussi, de ne pas dormir. Hein. Ouais. Mais là, c'était quelque chose. Un insomniaque permanent. Pour lui, la vraie lumière, c'était la nuit. Il avait perdu tout son équilibre. C'était des phénomènes propres, mais ça peut être des phénomènes de société, une société qui est complètement désorientée, qui est complètement déboussolée, et auquel on va redonner encore de la nourriture supplémentaire, de cette nourriture infecte et immonde, et on va avoir un monde de plus en plus désaxé. On en entend des choses. Hein. Vous vous rendez compte ? Le phénomène qui se passe aux Indes en ce moment avec cette jeune fille là qui est morte, hein. Mais ça a toujours existé. Mais jusqu'ici tout le monde faisait, on dit rien. Il y a des malades. Hein. Et puis quand on voit là un garçon de 20 ans qui va prendre 6 pistolets et puis qui va rentrer dans une église, il y en a eu encore un autre hier soir. Si vous avez entendu. Mais Seigneur, dans quel monde on est? Des gens qui vont industrialiser la mort, comme ça s'est passé il y a 70 ans. Mais on se dit, mais Seigneur, est-ce que c'est l'homme, avec sa raison, avec son bon sens, avec sa prétendue sagesse, parce qu'il ne parle que de sagesse, Seigneur, mais où on en est rendu? Parce que tout ça, ce sont des infractions, ce sont des outrages aux lois naturelles. Dieu nous a créés pour que nous puissions être des êtres équilibrés, si nous le voulons. C'est un outrage. Les lois naturelles de la vie auxquelles on essaie de pallier par des moyens artificiels. Comme on ne maîtrise plus rien, alors voilà. C'est les somnifères anxiolytiques, antidépresseurs, barbituriques, l'alcool, la drogue, le tabac, qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est un cercle infernal. Et on mange, hein. Et on va vers ça. Parce qu'autrement, la vie n'est plus la vie, c'est l'enfer. Et on se dit, ah là là, si je pouvais oublier tout ça, si je pouvais avoir un peu de repos, un temps soit peu de repos. Nous sommes de la génération des années 70. T'es pas triste à l'époque, hein. Mais la société, là, d'aujourd'hui, c'est quand même nous qui l'avons mis en place, hein. J'ai eu l'occasion de vivre à Amsterdam. Je peux vous dire que il y avait de la fumée au-dessus de la ville, hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y en avait, hein. Ah, merci Seigneur. Il m'en a gardé de tout ça. Le dérèglement total. On perd le contrôle. L'identité intérieure de cet homme, l'identité psychique, a été particulièrement piétinée, malmenée, souillée, comme tant à le prouver ce qui suit. Il vivait dans les sépulcres, c'est-à-dire en bas, et il y a également les montagnes. C'est-à-dire que il était en haut, il était en bas, il faisait yo-yo, vous vous rendez compte? Pas le yo-yo que vous connaissez, mais intérieurement. Cette vie déséquilibrée fait subir de vertigineuses fluctuations, c'est-à-dire à la fois de l'excitation ou de l'exaltation, vous pourrez mettre les mots que vous voudrez, qui est l'image de la montagne, et puis également les précipices de la dépression, les sépulcres. Ça va en haut et en bas. Il y a des gens qui sont toujours à la cave et au grenier, plus ou moins. Mais lui, c'était quand même un cas gravissime, je tiens à vous le dire. Seigneur, donne-nous l'équilibre dont nous avons besoin. Garde mon âme, parce que elle est terrible, mon âme. Elle aspire à tellement de choses, au bien et au mal, à la vérité comme à l'erreur. Vous savez que quand le diable serpent dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il a touché? Avant de toucher au corps, il a touché à l'âme. Hein? Est-ce que Dieu aurait réellement dit? Ça, c'est pas matériel. Et il a démantibulé finalement ce que Dieu avait fait chez l'homme, un équilibre, pour qu'il y ait une harmonie entre le corps, l'âme et l'esprit, et que normalement, aujourd'hui, ce que nous voyons pitoyablement, c'est que c'est le corps qui conduit le reste, s'il existe. Parce que les gens disent, ah bah oui, bon, moi j'ai un corps, et puis j'en profite, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Hein. L'âme, c'est vague, personnalité, mais quant à l'esprit, ça n'existe pas. Alors que Dieu voudrait remettre la pyramide dans le bon sens, et la pyramide, elle est renversée. Elle a la pointe en bas, vous comprenez? Alors que la base, ça devrait être justement le plus large. Et c'est l'esprit. L'esprit doit conduire notre âme, notre esprit d'abord, et ensuite notre esprit doit conduire notre âme, et ensuite notre corps. Le plus important, c'est pas le corps, c'est l'esprit, tout simplement. Alors je voudrais faire quand même une, pour vous rassurer, parce que je m'arrêtais là. Il faut faire quand même un distinguo entre les crises occasionnelles d'état de dépression, de nostalgie, de neurasthénie. Ça arrive à tout le monde et même à des chrétiens et voire même des pasteurs. On est d'accord? Il y a des gens qui sont venus me voir en disant, oh là là, je me sens pas bien. Mon âme est malade, je suis. Et ce sont des gens qui sont convertis, qui ont été baptisés du Saint-Esprit et tout ça. Eh ben, ça peut arriver à tout le monde, je vais vous le dire. Moi, je suis pas du genre de pasteur en disant, un chrétien ne doit pas passer par les dépressions. On le choisit pas, hein. Vous avez des soucis, vous avez toutes sortes de choses, des inquiétudes. Bah, quelquefois, vous savez, notre corps, hein, il est chimique, hein. Je traite encore des problèmes, dernièrement encore, avec des gens qui me téléphonent en disant « Ah, je me sens pas bien. » Alors, faut leur donner les bons conseils. Faut pas leur dire « Dis donc, tu fais une dépression. T'as fait quelque chose, hein, certainement. Hein. T'as péché, hein. Dieu t'aime plus. » Et culpabiliser à mort, alors là, vous les tuez. Hein. Eh ben, pour celui qui est passé par la dépression, c'est pas le langage qu'il faut tenir. Hein. Faut les encourager et leur montrer qu'on les aime. Ouah ! Parce que l'amour guérit. C'est pas la condamnation ni le jugement. Et puis il y a donc ce cas occasionnel, et puis un état de dépression, c'est autre chose. On appelle ça la bipolarité, vous savez, c'est un mot qui vient d'arriver dans le monde psychique, le monde mental. La bipolarité, c'est terrible. Moi, je vais m'arrêter là, on verra ça la suite, si vous voulez bien. Vous revenez tous la prochaine fois? Mais je vous ai pas dit quand ça sera la prochaine fois. Que le Seigneur nous aide. En tous les cas, mes frères et mes sœurs, moi, je voudrais vous dire de la part de Dieu que si tout ça a été écrit, c'est fait pour notre instruction, pour que nous puissions véritablement nous laisser sanctifier, comme nous dit l'apôtre Paul, je crois, dans les Thessaloniciens, et notre Dieu vous perfectionnera et vous sanctifiera esprit, âme et corps. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne sa grâce. Et ça fait partie de cette troisième leçon sur la libération. Seigneur, je m'approche de toi. Seigneur, je veux que tu me donnes une vie équilibrée. Le monde, eh bien, il n'est pas beau. Donne-moi vraiment de vivre de plus en plus près dans ta présence. C'est là où on est heureux. Dans ta présence, Seigneur, je suis bien. Dans ta présence, eh bien, tu me guéris de tous mes maux. C'est l'Éternel qui te guérit. Que le Seigneur nous bénisse, et nous allons prier quelques instants, et on verra très bientôt la suite. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, parce que cette histoire, ça n'a certainement pas été écrit tout simplement pour faire bien, pour remplir les pages de la Bible. Nous savons que ce même récit, il nous est présenté dans Matthieu, il nous est donné dans l'évangile de Marc, il nous est dit également dans l'évangile de Luc. Alors Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander, Seigneur, s'il est répété trois fois. Non pas que c'est une répétition, mais c'est une insistance pour nous montrer que le monde, il est ce qu'il est. Qu'il y a des hommes et des femmes, Seigneur, à sauver dans le monde. Des prisonniers, des captifs, des opprimés, des oppressés. Et c'est ce que tu as dit. Je suis venu pour rendre libre. En effet, les opprimés, les oppressés, et leur donner une année de grâce. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons bien compris ton intention. Et nous avons bien compris, Seigneur, ton œuvre par le Saint-Esprit et par ta parole. Qu'il nous faut, Seigneur, saisir par la foi la grâce de Dieu qui est venue un jour sur le rivage de ce pays de Décapole et l'a confronté avec cet homme profondément malheureux, lui apporter la délivrance, lui apporter le salut. Et cet homme s'est retrouvé, en effet, vêtu dans son bon sens aux pieds de Jésus. Seigneur, tu es venu nous donner, Père éternel, d'avoir, eh bien, de savoir peut-être aussi comment faire avec ceux qui sont dans cet état. Et puis, tu es venu nous dire combien, en effet, la grâce qui nous a été faite a été immense, parce que si nous n'étions pas, en effet, dans la foi en Jésus-Christ, peut-être que nous serions de l'autre côté, des profondément malheureux, des moribonds, Seigneur, à nous tourmenter. Seigneur, merci de nous avoir délivrés du malin, parce que tu l'as vaincu à la croix du calvaire. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce, et je te demande que pour chacun et chacune d'entre nous, eh bien, nous puissions tenir ferme que Jésus est mort pour nos péchés, pour notre délivrance, c'est dans ces meurtrissures que nous sommes guéris, et que, en effet, Seigneur, le diable, l'adversaire, a été vaincu à la croix du calvaire, et tu nous en as donné par la preuve, par la résurrection, qui est en Jésus. Et si nous croyons que Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités aussi avec lui, dans une vie nouvelle. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.